jour, chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour cette édition du journal. Au micro, Nanit Talani. Voici les faits marquants à suivre ce matin. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, nommé maréchal pour ses victoires militaires. Barthélémy Diaz résiste à une tentative de déchéance de son mandat de maire de Dakar après celle parlementaire. Retour au pouvoir du NDC au Ghana après 8 ans de gouvernance du NPP. Quel avenir pour Damas après la chute du régime de Bachar el-Assad? Ou qu'est-ce que l'alternance pacifique du pouvoir au Ghana pour la démocratie ghanéenne?
Cela démontre de la maturité politique et le Ghana démontre un exemple de leadership. Et cela démontre une fois de plus qu'en Afrique, tout n'est pas que tragédie et tout n'est pas que mort quand il y a des élections.
Les réponses dans nos analyses de ce matin. Pageco, la Chine restreint ses exportations de métaux rares vers les États-Unis. Sur le terrain, retour sur la défaite du Sénégal face à l'Angola en finale de la CAN féminine de handball. Tout de suite, le journal. Le candidat du parti d'opposition au Ghana, John Mahama, a remporté la présidentielle avec 56% des voix face au candidat du parti au pouvoir et vice-président du pays, Mahamudu Bawumia, 41%, a annoncé hier la commission électorale. Davantage avec Michel Joseph.
J'ai l'honneur particulier de déclarer vainqueur John Dramani Mahama, a annoncé la présidente de la commission électorale, Jean Mensah. La victoire du Parti national démocratique Congress, NDC, signe son retour au pouvoir après 8 ans de gouvernance du New Patriotic Party, NPP. Le candidat du pouvoir et vice-président Mahamudu Bawumia avait reconnu dimanche sa défaite au scrutin. L'opposition a aussi remporté les élections législatives qui se tenaient également samedi. Monsieur Mahama, 66 ans, qui fut président du Ghana de 2012 à 2017, a promis de relancer l'économie et de mettre en place des réformes anti-corruption. La défaite du parti au pouvoir sanctionne les 8 années du président sortant, Nana Akufo-Addo, dont le dernier mandat a été marqué par la pire crise économique qu'a traversé le pays depuis des années.
Au Tchad, le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a été élevé hier au rang de maréchal sur décision du Conseil national de transition. Il obtient ainsi les mêmes galons que son défunt père et prédécesseur à la présidence du pays. Rosine Munezero nous en dit plus.
Mahamat Idriss Déby a été élevé à la dignité de maréchal pour services rendus à la nation et les nombreuses victoires militaires remportées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Selon la résolution adoptée à 3 semaines des élections législatives et locales, les premières depuis 2011. Le projet de résolution sur sa promotion a été adopté par 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions selon les résultats du vote du Conseil national de transition dominé par le parti au pouvoir, le MPS. Le président Déby a lancé une offensive contre Boko Haram fin octobre après l'attaque sanglante d'une garnison sur une île du lac Tchad. Il a conduit personnellement les opérations aériennes et terrestres pendant une 15aine de jours avec des points réguliers diffusés sur le site Facebook de la présidence, le montrant en tenue militaire et en situation de commandement. Depuis, le chef de l'État a décidé de suspendre les accords militaires qui liaient le Tchad et la France depuis la fin de la colonisation en dénonçant des textes obsolètes. Ces dernières semaines, il a aussi plusieurs fois menacé de quitter la force multinationale mixte FMM, formée en 1994 avec le Cameroun, le Niger et le Nigeria, pour sécuriser la région du lac Tchad, en dénonçant la passivité de ses alliés.
Le Conseil de l'Union européenne a prolongé jusqu'au 12 décembre 2025 les sanctions contre la RDC visant 23 personnes et une entité impliquée dans des violations des droits de l'homme, des ingérences électorales et le conflit en cours. Ces sanctions incluent un gel des avoirs et une interdiction de voyager. Le maire de Dakar a déclaré hier qu'il va résister à d'éventuelles tentatives de la part du nouveau gouvernement de le déchoir de son mandat à la tête de la capitale sénégalaise après avoir initié la déchéance de son mandat de député. Le point avec Mouhamadou Oumfa.
À ceux qui cherchent les voies et moyens pour m'enlever de mon poste de maire de la ville de Dakar, je souhaiterais leur dire tout de suite que je n'accepterai pas, a déclaré devant la presse Barthélémy Diaz, à couteau tiré avec l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, son ancien allié dans l'opposition. Monsieur Diaz a aussi déclaré qu'il comptait de toute façon renoncer à la députation pour des raisons personnelles, mais a dénoncé un acharnement et une volonté de vengeance à son encontre. L'Assemblée nationale a déchu la semaine passée Monsieur Diaz de son mandat parlementaire à la demande du ministère de la Justice en raison d'une condamnation pour homicide volontaire prononcée en 2017, confirmée en appel en 2022 et validée par la Cour suprême en 2023. Monsieur Diaz avait été élu maire de Dakar en 2022 dans une coalition l'alliant au parti PASTEF d'Ousmane Sonko, opposant du président de l'époque Macky Sall. Monsieur Diaz et Sonko se sont brouillés en 2023 avant la présidentielle à l'horizon. La rude confrontation politique entre messieurs Sonko et Diaz a donné lieu à des incidents au cours de la campagne pour les législatives de novembre, remportée haut la main par le camp du Premier ministre Ousmane Sonko.
La justice béninoise a condamné Faleti Biaou Ayodele Prudence, surnommé général civil Faleti, à 10 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Il était accusé d'être l'un des leaders des violences survenues après les législatives de 2019, qui avaient entraîné des affrontements entre les forces de l'ordre et l'opposition, faisant 2 morts. Faleti Biaou avait été arrêté en janvier 2020 et il était accusé de menaces envers les autorités et de violences, notamment avec des armes automatiques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les rebelles lancent le processus de transfert du pouvoir en Syrie après la chute d'Assad. Les États-Unis se disent déterminés à ne pas laisser le groupe État islamique se reconstituer en Syrie. Les précisions d'Alexandrine Holognon.
À Damas, le chef islamiste des rebelles, Abu Mohamed al-Jolani, a discuté avec l'ex-premier ministre Mohamed al-Jalali pour coordonner la transition du pouvoir après que le Parlement et le parti Baath de Assad ont apporté leur soutien à la transition. À la demande de la Russie qui maintient des bases militaires en Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence lundi à huis clos sur la situation. De nombreux pays multiplient les appels à une transition sans violence. Les États-Unis et des pays européens disent qu'ils jugeraient le groupe HTS sur ses actes, appelant notamment à un gouvernement inclusif. À peine le président Bachar al-Assad chassé du pouvoir, le débat sur l'accueil des réfugiés syriens a ressurgi lundi en Europe. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, annonçant un gel des procédures de demande d'asile pour les exilés de ce pays. L'Allemagne, pays de l'Union européenne qui accueille la plus importante diaspora syrienne, près d'un million de personnes, a justifié cette décision par l'incertitude qui règne à Damas. Le gouvernement français envisage de lui emboîter le pas.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé ce mardi sa profonde reconnaissance envers Donald Trump pour sa forte détermination à mettre fin à la guerre en Ukraine après une rencontre à Paris samedi dernier. Trump, qui a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre en 24 heures une fois au pouvoir, a proposé un cessez-le-feu immédiat, suscitant des inquiétudes en Ukraine concernant de possibles concessions territoriales. Les ministres de l'Intérieur du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas et de la Belgique se réunissent ce mardi à Londres pour renforcer leur coopération contre les réseaux criminels liés à l'immigration illégale en Europe. Le but est de démanteler les réseaux de passeurs, de renforcer les poursuites contre les responsables et de mettre en place un plan d'action renforcé pour 2025 avec l'aide de la Commission européenne et des agences Frontex et Europol. Aux États-Unis, Luigi Mangione, un suspect de 26 ans, a été arrêté après 5 jours de recherche pour le meurtre de Brian Thompson, PDG de United Healthcare, tué à New York. L'arrestation a eu lieu à Altona, en Pennsylvanie, après qu'un employé de McDonald's l'a identifié. Et puis, en 2024, 104 journalistes ont été tués dans le monde, dont plus de la moitié à Gaza.
C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, concentrons-nous sur les dernières nouvelles financières et économiques avec Eric Maniragiza.
Les autorités béninoises ont suspendu le service de voitures de transport avec chauffeur VTC Yango quelques mois après son lancement, l'accusant d'opérer sans autorisation et l'a invité à procéder à une demande d'autorisation. Ils ont aussi demandé à un autre Gozem de régulariser sa situation dans un délai de 2 mois. Les services de VTC sont en plein essor sur le continent africain où les transports publics sont souvent insuffisants, notamment auprès d'une jeunesse nombreuse et de plus en plus connectée. La décision récente de la Chine de restreindre ses exportations de métaux rares vers les États-Unis pourrait coûter cher au secteur américain des énergies renouvelables et de la défense, préviennent des analystes. Cette mesure survient à l'approche du retour à la Maison-Blanche en janvier de Donald Trump. Le président élu a menacé Pékin d'augmenter substantiellement les droits de douane sur les importations de Chine. Les dirigeants politiques chinois ont annoncé lundi vouloir assouplir l'année prochaine la politique monétaire du pays, à l'heure où Pékin cherche toujours à enrayer l'essoufflement de la deuxième économie mondiale. Ce changement du discours officiel donne le ton peu avant une importante conférence économique qui pourrait esquisser cette semaine de nouvelles mesures de soutien.
Nous vous invitons à présent pour un voyage sportif entre la Ligue des champions et la CAN féminine de handball avec un focus sur le Real Madrid, le Bayern Munich et les Lions de la Teranga. Dans cette page sport de Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Suite des matchs de la Ligue des champions ce soir en Europe.
Oui, les tenants du titre, les Madrilènes, se rendent sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, du Nigérian Lookman Ademola et de l'Ivoirien Kosonou. Le Real Madrid est pour l'instant 24e après avoir subi 2 énormes camouflets contre l'AC Milan au Santiago Bernabeu et à Liverpool. Les hommes de Carlo Ancelotti doivent d'autant plus se méfier de l'Atalanta que la formation italienne reste sur une série de 9 succès consécutifs. Le Bayern Munich, inconstant jusque-là 13e, peut se rapprocher du top 8 et d'un biais direct pour les 8e de finale contre le Shakhtar Donetsk. Brest accueille le PSV Eindhoven à Guingamp pour se relancer après la claque reçue à Barcelone 3-0 et Lille 12e peut continuer sa remontée face à Sturm Graz.
Yakuba, nous revenons sur la défaite du Sénégal en finale de la CAN féminine de handball à Kinshasa en RDC.
Les Lions de la Teranga ont été battus en finale par les Angolaises 28-18, bilan avec leur sélectionneur Yassine Messaoudi.
Effectivement, on sort d'une compétition dans laquelle on a fini vice-championne d'Afrique. On a pu démarrer la compétition en douceur et monter en puissance puisqu'on a affronté 2 adversaires qui étaient les plus faibles du groupe, à savoir le Kenya, également le Cap-Vert. Ensuite, on a affronté les 3 gros morceaux de la poule. On a enchaîné 2 victoires contre l'Égypte, qui sera demi-finaliste de la compétition. Une autre victoire contre l'Algérie, avant de perdre pour la première fois contre le Congo. C'est vrai qu'on était déjà qualifié en quart de finale. On a beaucoup appris de cette défaite et on a pu appliquer les remédiations dès les quarts de finale, où on a affronté le Cameroun, qui était un gros morceau de la compétition. Il restait sur les 2 dernières finales de la CAN. Ça nous a permis d'atteindre les demi-finales où on a affronté la Tunisie, qui fait partie des équipes les plus techniques du continent. On est arrivé en finale face à l'ogre angolais, très 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 entamé sur le plan physique. Pour autant, je retiens vraiment de cette compétition l'état d'esprit de mon équipe, qui a été fabuleux, avec beaucoup d'adversité, mais une vraie volonté de rendre fier le peuple sénégalais et d'aller le plus haut possible pour arracher cette qualification au championnat du monde.
Yassine Messaoudi, sélectionneur des Lions de la Teranga.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours avec vous. Bienvenue dans notre section magazine consacrée aux efforts de l'Inde de réduire sa dépendance au dollar et à la Biennale de Dakar qui offre une tribune pour des Afro-Argentins. Nous analyserons aussi l'alternance pacifique au Ghana et l'avenir incertain de Damas après la chute du régime d'Assad. Pour commencer, rendons-nous au Ghana. Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, candidat du parti au pouvoir à Accra, a reconnu sa défaite face à John Mahama lors de la présidentielle. Dans la continuité de la tradition démocratique du pays depuis 1992, cette alternance pacifique témoigne de la maturité politique du Ghana où les électeurs choisissent régulièrement le changement à travers les urnes. Pour en discuter, Eric Manirakiza a joint à Philadelphie Nyaka Lagoke, maître de conférences en histoire et études panafricaines à l'Université Lincoln de Philadelphie.
L'élection de John Mahama Dramani peut être vue comme la victoire du système démocratique ghanéen. Cela démontre de la maturité politique et Ghana démontre un exemple de leadership. Et cela démontre une fois de plus qu'en Afrique, tout n'est pas que tragédie et tout n'est pas que mort quand il y a des élections.
Qu'est-ce que la démocratie ghanéenne vous inspire et que faudrait-il faire pour garantir des élections pacifiques et crédibles sur tout le continent?
Bon, d'abord, les choses progressent. Alors, au Ghana, il y a eu des élections que nous apprécions tous. Mais avant le Ghana, il y a eu le Botswana. Après le Botswana, il y a eu la Namibie. Et puis, avant la Namibie et le Botswana, il y a eu le Sénégal. Donc, c'est pour vous dire que les choses se passent bien sur le continent africain. Cela peut être meilleur, parce qu'il y a encore beaucoup de poches de résistance. Et donc, à l'aide des réseaux sociaux, dans ce contexte du renouveau du panafricanisme, ce sont de bonnes pratiques.
À votre avis, quel rôle le panafricanisme peut-il jouer pour promouvoir des systèmes électoraux crédibles et l'alternance démocratique à l'échelle du continent?
Bon, au niveau du panafricanisme, il y a plusieurs courants, plusieurs tendances. Il y a les leaders des États du Sahel, par exemple, qui ont le soutien de beaucoup de panafricanistes parce qu'ils défendent la souveraineté économique et politique de l'Afrique. Mais les mêmes panafricanistes, ou bien d'autres, apprécient les victoires électorales, comme je l'ai dit, au Sénégal, où le PASTEF a pris le pouvoir sur la base d'un idéal panafricain, ou encore au Ghana, où le NDC, le parti de Dramani, de John Mahama Dramani, avait revendiqué une certaine partie de l'héritage de Kwame Nkrumah. Et d'ailleurs, d'après mes informations, beaucoup de Ghanéens pensent que c'est leur seconde indépendance avec l'élection de Dramani, dans la mesure où c'est une occasion pour eux de revendiquer leur souveraineté politique et puis leurs droits ou le pouvoir de leur vote.
La démocratie, pour vous, elle fonctionne dans certains pays et dans d'autres, elle ne fonctionne pas, c'est ça?
Non, je ne dirais pas qu'elle fonctionne dans certains pays. Même la démocratie ghanéenne a ses limites. La démocratie en Afrique du Sud, voilà, j'ai même oublié de parler de l'Afrique du Sud, où il y a eu des élections cette année, a ses limites. Mais on est d'accord qu'il faudrait un modèle démocratique qui s'inspire des réalités africaines. On est d'accord pour cela.
Nyaka Lagoke, maître de conférences en histoire et en études panafricaines à Lincoln University. La 15e édition de la Biennale de Dakar au Sénégal s'est clôturée ce week-end. Cet événement majeur de l'art contemporain africain a attiré des artistes du monde entier, dont certains en provenance d'Argentine, un pays où l'héritage des descendants d'esclaves africains a longtemps été ignoré dans le récit national. Découvrez cette histoire dans le reportage d'Alison Fernandez, Martha Moreiras et Mustapha Diène.
À l'hôtel de mairie des Parcelles Assainies, en banlieue de Dakar, l'exposition Cartographie Utopique présente le travail d'un collectif brésilien et argentin. Boubacar Traoré est le commissaire d'exposition. Ce professeur d'histoire de l'art, installé à Buenos Aires depuis plus de 30 ans, entend mettre en lumière le passé africain de l'Argentine, longtemps occulté, minimisé, voire objet de déni.
Il fallait déconstruire ce discours d'exceptionnalité, c'est-à-dire l'historiographie qui présente l'Argentine comme une exception, c'est-à-dire une portion de l'Europe en Amérique. Et donc, les œuvres, finalement, ont voulu déconstruire ce discours.
Pendant les 18 et 19e siècles, les Noirs ou Métis représentaient plus de la moitié de la population de certaines villes d'Argentine, et Buenos Aires était l'un des principaux ports de débarquement des esclaves africains. Mais cette histoire n'est pas enseignée à l'école, comme nous raconte Emmanuel Ntaka, artiste originaire de Buenos Aires, invité à chanter dans le cadre de la Biennale.
On m'a toujours enseigné que les Africains ou descendants d'Africains avaient été exterminés, exclus de la société à cause des maladies, des guerres avec le Paraguay.
Né d'une mère argentine et d'un père sud-africain, chanteur et militant anti-apartheid, Emmanuel a grandi dans cette double culture à Buenos Aires. C'est après une agression raciste en 2001, alors qu'il est dans sa vingtaine, qu'il se rapproche des milieux associatifs afro-descendants.
I started to realize
J'ai commencé à réaliser la réalité de notre société, qui est une société raciste, qui ne reconnaît pas nos ancêtres africains.
Pour Emmanuel Ntaka, ce premier voyage au Sénégal est une opportunité. Pour se reconnecter à ses racines d'abord, mais aussi pour bâtir des passerelles entre les cultures.
Une de mes missions ici est de créer un pont pour que dans le futur, plus d'Afro-Argentins aient la possibilité de venir et de se connecter à leurs ancêtres.
D'après le dernier recensement réalisé en 2022 en Argentine, 0,7% de la population se déclare d'ascendance africaine, un chiffre basé sur l'auto-perception qui est, selon Emmanuel Ntaka, sous-évalué. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'Inde ne soutient pas la création d'une monnaie commune au sein du groupe des 9 pays des BRICS, mais elle tente de promouvoir le commerce dans sa monnaie locale, indiquent des analystes. Le futur président américain Donald Trump a récemment mis en garde les pays de ce bloc contre les efforts visant à remplacer le dollar par une monnaie alternative. Reportage d'Anjana Pasricha à New Delhi, récit d'Ininiwa.
L'Inde ne cherche pas à créer une monnaie commune des BRICS, une initiative potentielle qui s'est heurtée à une forte résistance de la part du président élu des États-Unis, Donald Trump. Ce dernier a menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits des 9 membres du bloc des BRICS si ces derniers remplaçaient le dollar américain par une autre monnaie ou soutenaient une alternative au billet vert. Les analystes affirment que la méfiance et les différences entre les principaux membres des BRICS, tels que l'Inde et la Chine, constituent une énorme pierre d'achoppement dans la mise en place d'une monnaie commune. Chintamani Mahapatra travaille pour l'Institut Kalinga d'études indo-pacifiques.
L'Inde ne soutient pas cette initiative. Toute monnaie commune n'aidera personne. Seuls les pays dominants comme la Chine finiront par dicter leurs lois. Il est donc très difficile de parvenir à un consensus en faveur d'une monnaie commune.
Le noyau dur des BRICS, Chine, Russie, Inde, Brésil et Afrique du Sud, s'est élargi cette année à l'Iran, aux Émirats arabes unis, à l'Éthiopie et à l'Égypte. L'idée d'une monnaie des BRICS a pris de l'ampleur en 2022 après que les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie à la suite de la guerre en Ukraine et des tensions croissantes entre l'Occident et la Chine. Mais l'alliance des pays émergents est trop hétérogène pour qu'une monnaie commune soit viable, selon Chintamani Mahapatra.
Nous n'avons pas de marché commun, nous n'avons pas de politique commerciale commune, nous n'avons rien en commun.
Toutefois, l'Inde et certains d'autres pays des BRICS ont intensifié leurs efforts pour faire le commerce dans leur monnaie locale afin de réduire leur dépendance à l'égard du dollar américain. Écoutons l'analyste commercial Biswajit Dar.
Le gouvernement indien a identifié 17 pays avec lesquels l'Inde souhaite commercer en roupies ou dans une monnaie bilatérale.
bilateral currency.
Parmi ces pays figure la Russie. New Delhi, qui n'a pas adhéré aux sanctions américaines, paie en roupies ses importations massives de pétrole en provenance de Moscou. Mais, dit Biswajit Dar, le commerce de la roupie pose également des problèmes.
L'Inde a un énorme déficit commercial vis-à-vis de la Russie, ce qui signifie que lorsque l'Inde achète beaucoup de pétrole et paye en roupies, la Russie ne sait pas quoi faire du stock de roupies qu'elle détient actuellement.
Le ministre indien des Affaires étrangères, Subramanian Jaishankar, a déclaré que l'abandon du billet vert ne faisait pas partie de la politique économique de l'Inde. Selon les analystes, cela s'explique par le fait que les intérêts stratégiques de l'Inde sont généralement alignés sur ceux des États-Unis.
La capitale syrienne Damas a connu un renouveau lundi, marquant le début d'une ère pleine d'espoir mais incertaine. Après 13 ans de guerre civile, les rebelles ont pris la ville et le président Bachar al-Assad s'est réfugié en Russie. Ahmed al-Shara, chef des rebelles, a rencontré les hauts responsables du gouvernement d'Assad pour discuter des modalités d'un gouvernement de transition. Des incertitudes demeurent sur les scénarios possibles dans les mois à venir. Quels sont les scénarios envisageables dans les mois à venir ? Voici l'analyse de Diyad Jiyan, journaliste pour le Média Africa Intelligence et spécialiste du monde arabe, joint par Alexandrine Holognon.
Il y a beaucoup de choses qui ont joué, notamment le fait que la majorité de la population, en réalité, était bien contre le maintien au pouvoir de Bachar al-Assad, ce qui a expliqué que les villes sont tombées assez rapidement. Donc ça, c'est un des facteurs internes. Un autre facteur interne, c'est que l'armée syrienne s'est effondrée assez rapidement. Je pense aussi qu'il y a une forme de coup de pied de l'âne du Hezbollah vis-à-vis de Bachar al-Assad, qui n'a pas fait grand-chose pour défendre le parti dans sa confrontation avec Israël. Vous avez aussi une forme, malgré tout, un peu de lâchage iranien, et la Russie qui est occupée en Ukraine et qui n'a pas pu assurer avec efficacité la défense du régime. À cela s'est ajouté toute une série de facteurs plus conjoncturels qui expliquent l'effondrement de l'armée syrienne.
On a vu plusieurs personnes jubiler dans les rues depuis l'annonce de la chute de Bachar al-Assad. Est-ce que cette victoire signifie réellement la libération du peuple syrien de la famille al-Assad ?
Oui, je pense que la chute du régime est entérinée avec la fuite manifestement à Moscou du président et de sa famille. Donc, dans un premier temps, oui, je pense qu'il est clair qu'il s'agit d'une libération. Est-ce qu'il faut être prudent sur ce qu'il va arriver, ce qui va se passer ensuite ? Bien sûr, il faut toujours être prudent sur les suites d'une révolution, mais je pense, à mon avis, que c'est une révolution authentique.
Sur le plan régional, est-ce que la chute de Bachar al-Assad va marquer un tournant pour les équilibres géopolitiques dans cette région ?
Ça me paraît évident. Maintenant, il faut rester prudent sur quelles vont être ces évolutions. Je suis pas certain que les nouvelles autorités vont absolument renverser la table de la situation diplomatique de la Syrie. Je pense notamment à la question israélienne. Je suis pas persuadé que les nouvelles autorités auront plus envie de faire des approches avec Israël, en particulier vu ce que Israël a fait ces derniers jours, c'est-à-dire bombarder des installations militaires en Syrie alors que le régime est déjà tombé, et élargir la zone tampon au-delà du Golan occupé. Donc de ce point de vue-là, je suis pas certain qu'on voit des changements majeurs. Je pense qu'il y aura des changements majeurs au Liban, où la présence au moins symbolique de la Syrie à travers le Hezbollah sera effectivement affaiblie. Je pense que l'Irak voudra et devra instaurer de nouvelles relations avec la Syrie. L'Iran devra refondre sa relation avec la Syrie. Tous ces pays-là continueront probablement à avoir des relations avec la Syrie, tout simplement parce que la Syrie est inévitable. Il suffit de regarder une carte. Il faudra aussi surveiller ce qui se passera avec la Russie. Je crois que pour le moment, la rébellion a donné quelques signes d'assurance à la Russie qui n'allait pas attaquer les installations militaires, ou en tout cas portuaires russes, notamment à Tartous, en Syrie. Donc il faut voir. Je pense que tous ces pays-là vont devoir recalibrer leur relation avec la Syrie, effectivement.
Diyad Guilan, journaliste pour le Média Africa Intelligence et spécialiste du monde arabe, joint par Alexandrine Holognon. Nous voici au terme de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute pour plus de détails et d'analyses dans nos prochaines éditions. À la présentation, Nanit Talani. À la mise en onde, Michel Joseph. À la technique, Kelvin Fowler. Passez une excellente journée. À bientôt.